Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Comment peut-on sortir du bourbier diplomatique? Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine ont mené des pourparlers à Abu Dhabi pour résoudre la guerre insolvable d'Ukraine. Certains commentateurs très optimistes évoquent une accélération du tempo diplomatique puisqu'il y a eu trois rencontres serrées à Davos, Moscou et maintenant aux Émirats. Toutes les parties ont aussi jugé cela constructif, mais, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, je cite, « un travail très sérieux reste à accomplir ». Il serait erroné de compter sur des résultats significatifs à la suite de ses contacts. Il a aussi d'ailleurs au passage accusé Kaja Kallas, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, d'incompétente pour expliquer le refus russe de discuter avec l'Union. Selon lui, Bruxelles est peuplée, je cite encore, de fonctionnaires semi-illettrés ou incompétents, incapables de se projeter dans l'avenir ou de comprendre les réalités d'aujourd'hui. Nous sommes donc bien face à une impasse. Alors nous allons en parler avec Romain Bessonnet, spécialiste de l'espace post-soviétique, traducteur des discours de Vladimir Poutine, publié aux éditions Godefroy. Romain Bessonnet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Revenons donc sur ces soucis, cette impasse diplomatique. Les diplomates russes, ukrainiens et américains, d'ailleurs pour la première fois tous les trois ensemble, se sont repartis d'Abu Dhabi, mais sans annonce. Moscou et Kiev, encore une fois, se sont engagés à reprendre les discussions dimanche prochain, mais on se demande si c'est vraiment nécessaire, si c'est juste de la façade. Alors que croire, Romain Bessonnet, comment qualifiez-vous la situation? Est-ce un progrès ou une régression?
Premièrement, c'était la première fois qu'on avait cette rencontre de type ouverte. En fait, ce ne sont pas des diplomates qui se sont rencontrés, ce sont en fait les responsables sécuritaires des trois pays. Les délégations avaient une nette coloration donc militaro-sécuritaire des deux côtés. Il faut savoir que le chef de la délégation russe, par exemple, était le chef des services de renseignement militaire russe. Donc, il y avait une coloration très sécuritaire. Et du côté ukrainien, c'était l'ancien chef des services de renseignement militaire, M. Budanov, qui est le chef du bureau du président ukrainien. Alors, ces rencontres, il faut le savoir, hein, elles se déroulent depuis plusieurs mois déjà, mais portes closes. Là, c'est pour la première fois, on les a ouvertes un tout petit peu à la presse. La vérité, c'est que le pouvoir ukrainien actuellement est dans une impasse complète, étant donné qu'il est au bord de la cessation de paiement. Hein, les bombardements russes sur les infrastructures critiques du pays, en fait, sont en train de donner leurs effets. Et donc l'économie ukrainienne est de toute évidence en train de s'effondrer. Notamment, il y a des communiqués très alarmistes du syndicat des métallurgistes ukrainiens, qui est une organisation qui compte dans l'économie ukrainienne, parce que rien que la métallurgie en tant que telle, c'est 10% du PIB ukrainien, mais avec tout ce qu'il y a autour, ça pèse largement beaucoup plus. Donc, quand vous n'avez pas d'électricité, on ne peut pas faire marcher une économie. Et le réseau électrique ukrainien actuellement fonctionne environ 5 à 10 heures par jour sur à peu près toutes les régions maintenant. Donc,
y compris la capitale.
Surtout la capitale. La capitale est particulièrement touchée, mais c'est aussi un grand centre industriel, Kiev. Mais en fait, la Russie vise essentiellement les grands centres industriels du pays, donc Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkov. Et donc, ces trois régions-là ont entre 15 et 19 heures par jour de coupure d'électricité, ce qui fait que c'est en train de mettre l'économie ukrainienne à l'arrêt. On commence à voir au sein de la population ukrainienne aussi des phénomènes de révolte, notamment des gens qui coupent les routes à certains endroits dans beaucoup de localités. On a eu le cas dans la région d'Odessa, dans la région de Ternopil, parce que les gens voient que, en fait, donc, dans un contexte d'économie de guerre, on continue d'alimenter les usines en électricité et on coupe, parfois depuis maintenant 4 à 5 jours, l'électricité dans les quartiers résidentiels. Donc le pouvoir ukrainien est un peu aux abois en ce moment, donc, du point de vue politique.
Cela dit, je me permets de vous interrompre, mais selon certaines sources, selon des échos que j'ai pu avoir du terrain, les civils aussi ont peur. Refuse de dire ce qu'il passe. Bon, il gèle, hein, stricto sensu, mais il y a aussi cette peur de retransmettre réalité de leur quotidien.
Bien sûr. Alors, l'Ukraine est dans un contexte aujourd'hui où il y a l'état de siège et donc le pouvoir ukrainien peut faire à peu près ce qu'il veut. Sauf que actuellement, Monsieur Zelensky, la fébrilité de Monsieur Zelensky à Davos est un signe que le pouvoir ukrainien commence quand même sérieusement à avoir de très très gros problèmes. Il faut savoir que par M. Zelensky, il y a maintenant une semaine, avait dit qu'il n'irait pas à Davos.
Il y est forcément allé.
Finalement, donc mardi...
Et vous jugez son discours fébrile.
Mardi, il ne devait pas aller à Davos. Jeudi, il y est allé. Et il y est allé pourquoi ? Parce que son pays est actuellement en état de quasi-cessation de paiement, que les Européens ont promis de l'argent et que cet argent n'arrive pas. Première chose. Deuxièmement, les Européens ont promis une aide à l'Ukraine, notamment en termes de reconstruction de ses infrastructures énergétiques pour maintenir le pays à flot. Cette aide n'arrive pas. Et qu'une troisième chose, c'est que l'aide militaire promise n'arrive pas non plus. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques heures maintenant, le ministre de la Défense, Pistorius, donc ministre de la Défense allemand, a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles livraisons de Patriotes pour l'instant, parce que l'Allemagne a vidé son stock, ses arsenaux, et donc avant de livrer des nouveaux Patriotes, ben, il faudra reconstituer les stocks de l'armée allemande, et donc il faut attendre des livraisons américaines. Donc aujourd'hui, voilà, la pénurie de Patriotes, elle se voit dans le fait que les Russes maintenant frappent tout sans aucun problème. Ils n'ont plus aucun souci pour frapper les infrastructures énergétiques qui n'arrivent pas à se reconstituer.
Les missiles vont forcément plus vite que...
Donc les missiles aides. Vont plus vite et les missiles font mouche à chaque fois. Ils ne sont quasiment plus interceptés maintenant. Donc la situation est vraiment critique du point de vue... du gouvernement ukrainien qui, donc, maintenant n'a plus d'argent. Et enfin, la dernière douche froide que l'administration Zelensky vient de se prendre, ça a été le discours de la directrice du FMI à Davos, ça doit être mardi ou mercredi dernier, qui a dit qui a laissé entendre entre les lignes, mais tout le monde a compris, que si l'Ukraine mettez pas en œuvre un plan donc, de suppression des subventions à l'électricité pour la population. Quand on a une population qui grelotte de froid, est quand même assez géant. Donc, s'ils ne suppriment pas les subventions dans le secteur de l'énergie, et puis s'ils ne mettent pas en œuvre l'agenda de réforme que le FMI a prévu de mettre en place à l'Ukraine, notamment un plan d'austérité budgétaire assez important, notamment une augmentation de la TVA, qui va être subi par la population ukrainienne, l'argent n'arriverait pas. Et le gouvernement ukrainien a besoin d'une tranche... Enfin, c'est vu promettre par le FMI une tranche de 5 milliards de dollars qui n'a toujours pas été débloquée à cause de ça. Donc aujourd'hui, M. Zelensky, il est un peu acculé à faire des concessions. Et face à cela, les Américains ont assez bien compris la chose. L'administration américaine a dit si vous mettez de l'eau dans votre vodka, notamment, on sait maintenant le dernier point qui bloque, c'est la question de la concession territoriale. Les Russes ont dit le minimum, c'est la libération complète du Donbass.
Bon, cela dit, Zelensky, il y a encore 24 heures, 48 heures, disait que l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'était pas, je cite encore une fois, négociable.
Oui, ben, ce n'était pas négociable. Et puis, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN aussi n'était pas négociable il y a 2 mois et maintenant on n'en parle plus.
Oui, vous pensez d'ailleurs, donc ce que vous dites là à l'instant, c'est que les garanties de sécurité sont réglées.
Les garanties de sécurité sont en train d'être réglées et ces garanties de sécurité ne seront pas une entrée dans l'OTAN. Il faut être, clair et net. L'administration américaine, d'ailleurs, l'a déclaré il y a encore avant-hier. Donc, je pense que ce point-là est réglé. Le dernier point qui bloque, d'après les négociateurs américains, c'est la question territoriale. Et cette question-là, effectivement, pour M. Zelensky, c'est un véritable problème parce que les nationalistes ukrainiens, alors là, pourraient tenter un coup d'État militaire avec le troisième corps d'armée, c'est-à-dire le corps d'armée Azov, la hiérarchie de haut en bas est contrôlée par les nationalistes. Donc voilà à peu près le dilemme dans lequel est M. Zelensky. Il est poussé par l'état économique de son pays à faire des concessions. Et en même temps, il a peur que la concession territoriale soit la concession de trop. Dernier point, pour appâter M. Zelensky, les Américains ont bien compris la situation et lui ont dit ben, si tu signes, il y aura un plan de reconstruction de 800 milliards de dollars à la clé. Donc, sous contrôle américain quand même, parce que les maîtres doivent se servir en premier. Hein. Oui, mais en tout cas, voilà, on prendra en charge là. On fera en sorte que les Européens, parce que les 800 milliards seront payés essentiellement par les Européens, il ne faut pas se faire d'illusions, donc seront pris en charge.
Une entrée potentielle dans l'UE ?
Alors,
en amont d'une entrée potentielle dans l'UE ?
En partie, oui. De toute façon, ça fait partie des choses que les Américains veulent imposer aux Européens. Hein. Ils veulent imposer l'entrée dans l'UE et la contribution de l'UE à un plan de, à un fonds de, reconstruction. Mais voilà, aujourd'hui, il faut être très clair, le gouvernement Zelensky est obligé de négocier.
Avec cette aide européenne, donc américano-européenne, mais européenne, n'y a-t-il pas un moyen pour Zelensky d'abattre aussi cette frange Azov qui est la plus menaçante et dont l'ombre plane sur les élections qui devront avoir lieu aussi ?
Alors, il y a une chose qui le laisse penser, c'est que Andrei Beletsky, qui est donc le patron du corps d'armée Azov, est actuellement pressenti, donc... Le bureau de la présidence a fait fuiter dans la presse ukrainienne l'information selon laquelle M. Beletsky serait pressenti pour remplacer Sirski comme chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Et donc, placé juste auprès du président, il n'aurait pas du tout intérêt à le faire tomber parce qu'il tomberait avec lui. Donc, je pense qu'au sein du pouvoir ukrainien, on est en train de préparer justement la domestication de ces nationalistes en leur donnant des postes et des prébendes. Voilà. D'où d'ailleurs le fait que Andrei Yermak et toute sa bande, en fait, sont en train d'être liquidés au sein de l'appareil d'État ukrainien pour faire de la place.
Alors, si je vous suis bien, il y a quand même, malgré cette espèce de j'évoquais d'impasse diplomatique, il y a quand même des espoirs de paix, hein, contraints, forcés. L'Ukraine a évidemment un couperet au-dessus de la tête, mais vous avez l'air de dire que la paix dans l'année, pour l'Ukraine, c'est jouable.
Pour moi, c'est possible, et je pense que, sauf à avoir du côté de l'Union européenne à trouver des États prêts à mettre sur la table les centaines de milliards qu'il faut pour maintenir l'Ukraine à flot, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est sur la table, hein. Il y a 3 mois, l'Union européenne faisait des cocoricos en disant qu'ils avaient réussi à débloquer 90 milliards sur 2 ans. Actuellement, c'est ce qu'il va falloir pour financer l'Ukraine en 3 mois. Donc ça veut dire que si on sort les 40 milliards qui n'ont toujours pas été débloqués parce que l'unanimité des États membres n'a toujours pas été trouvée, si on arrive à sortir ces 40 milliards, on donnera juste 3 mois de répit à M. Zelensky, car actuellement... le taux d'autofinancement de l'Ukraine, qui était dans son budget prévu à 60% du budget, est en train de chuter à vitesse grand V, et c'est bientôt presque 100% qu'on va devoir prendre en charge. Donc on va être sur une fin qui est, si vous vous rappelez, la fin du Sud-Vietnam, c'est-à-dire que le Sud-Vietnam a arrêté de se battre le jour où le Congrès américain a décidé de stopper son aide économique et financière. En deux mois, c'était réglé. Ben, là, on est à peu près sur la même chose. Monsieur Zelensky est venu crier aux Européens que si vous n'ouvrez pas le portefeuille, moi, je ne pourrai pas tenir.
Et encore une fois, comme dans plein de problèmes, évidemment, on a entendu Mark Rutte, le chef de l'OTAN, évoquer la défense européenne sans Washington qui serait un rêve. L'Ukraine, la résolution du conflit ukrainien sans les États-Unis, c'est aussi un rêve.
Ah oui, c'est un rêve complet, parce que les États-Unis sont les seuls à avoir la planche à billets illimitée grâce au dollar. C'était la seule chose qui permettait de maintenir une guerre sur le temps long, en fait. Les Américains sortis du jeu, plus d'aide financière des États-Unis, ça veut dire qu'il faut payer cette guerre cash et en argent frais. Or, aucune puissance n'a les moyens de se permettre ce type d'investissement sur un pays aussi grand que l'Ukraine.
Alors pendant que Washington, Kiev et Moscou négocient, certes évidemment lentement, eh bien les armes parlent sur le terrain, sur le front. Bon, c'est l'hiver, donc il ne faut pas s'attendre à de grands basculements, mais il y a des incertitudes, par exemple autour de la ville de Kupiansk. C'est la quatrième bataille de Kupiansk, me semble-t-il, oui, depuis le début de la guerre. Elle a été prise, reprise. Il y a de violents combats depuis quand même quelques semaines. Visiblement, Kiev et Moscou revendiquent actuellement le contrôle de Kupiansk, le nettoyage de Kupiansk, donc c'est assez difficile de faire la part des choses. Moscou, en la personne du général en chef Valery Gerasimov, a aussi revendiqué une avancée sur le front sud, en direction de Zaporogie. Les troupes russes seraient à 12 km de Zaporogie. Si je devais résumer, un revers pour l'un ou l'autre des belligérants pourrait-il peser, à votre avis, dans l'avenir véritablement de la guerre à l'heure actuelle ?
En fait, actuellement, la guerre, elle est grosso modo, les Russes ne peuvent pas avancer militairement rapidement et les Ukrainiens ne peuvent pas reprendre le terrain qu'ils ont perdu. Donc, ce n'est pas...
Il y a le manque d'hommes du côté ukrainien. Alors, et du côté russe.
Du côté ukrainien, il y a le manque d'hommes. Et puis du côté russe, il y a la volonté en fait, de ne pas épuiser le pays dans la guerre. Donc, on maintient, je dirais... On maintient la guerre à un seuil
d'acceptabilité
pour la population et surtout pour l'économie russe.
Ah, nous allons en parler de l'économie russe.
Mais... Donc c'est ça en fait qui est le juge de paix du côté russe en fait sur leur engagement, parce que les Russes auraient les moyens de mobiliser 10 millions d'hommes et puis de terminer cette guerre en quelques mois, sûrement. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, mais ce serait au prix d'une saignée économique qui emmènerait derrière un effondrement de l'économie russe. Donc, la direction politique en Russie, en fait, ce qui dicte ses choix, c'est l'économie. C'est un, l'écrasement de l'économie ukrainienne, parce que pour eux, c'est ce qui va permettre d'amener l'Ukraine à la table des négociations et rien d'autre. Et de l'autre côté, c'est le fait que l'investissement dans la guerre, donc des moyens budgétaires et autres dans la guerre, soit proportionné aux moyens qu'a l'économie russe de le financer.
Alors nous allons, comme je le disais, évoquer dans quelques instants cette économie russe. J'en reviens avant ça au problème de la guerre, du front. Encore une fois, vous disiez que Volodymyr Zelensky était fébrile il y a quelques jours à Davos, mais bon, il a rapporté des chiffres qui sont sans doute faux, hein, bien sûr. Le 24 janvier dernier, selon Kiev, 35 000 soldats russes seraient tués chaque mois sur le front. Alors, même s'il a multiplié par 10 les chiffres réels, ce serait énorme, me semble-t-il, mais c'est vous qui êtes juge, Romain Bessonnet. Le fait est qu'il déclare, Volodymyr Zelensky, il déclare encore vouloir imposer à Moscou la paix, je cite, par la force et... Son objectif, c'est de neutraliser, d'éliminer 50 000 soldats russes chaque mois sur le front pour contraindre Moscou. Comment jugez-vous ces déclarations, ces objectifs de guerre ?
La guerre du Vietnam nous a montré que évaluer l'efficacité militaire d'une action par le body count, par le nombre de morts, n'a pas grande signification. Voilà. Les Américains, en 1971, quand ils ont commencé leur engagement, ils disaient « on a tué, ils tuaient, je crois, 20 000 Vietcong par mois ». Ça n'a eu aucun impact sur le résultat de la guerre. Donc, M. Zelensky dit 35 000, il pourrait dire 50 000, il pourrait dire 100 000. On nous dit, certains experts sur LCI vous disent que les Russes ont eu 1 500 000 morts depuis le début de la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 100% de leur armée, forces stratégiques comprises dans cette guerre. C'est complètement hallucinant, il faut rester dans les réalités. Non, si la Russie n'avance pas actuellement sur le front, si elle avance si lentement, c'est parce que la Russie économise ses moyens, économise ses hommes. C'est la seule explication logique. Si la Russie était comme on le dit, insensible à ses pertes, on aurait des avancées beaucoup plus importantes sur le terrain, parce que les Russes y mettraient les moyens, ils mettraient les 100, 200, 300 000 hommes qu'il faut à un point du front. Or, ce n'est pas ce qui se passe.
Cela joue quand même en faveur des Ukrainiens, d'une certaine manière. Bon, Emmanuel Macron n'arrête pas de répéter, je cite, « Nous voulons la paix en Ukraine, mais pas une paix qui soit une capitulation. » Les Européens vont-ils réussir à offrir cette paix qui ne soit pas une capitulation à l'Ukraine ?
La paix que demandent les Russes n'est pas une capitulation de l'Ukraine.
Mmh.
Tout d'abord, pour commencer. Les Russes demandent un compromis politique aux Ukrainiens sur la base des objectifs qui sont fixés. C'est-à-dire ce que eux pensent être la mise en sécurité du Donbass, qui pourrait d'ailleurs passer par sa démilitarisation. Les Russes sont tombés d'accord là-dessus avec les Américains. Donc une démilitarisation, mais sous contrôle russe. Donc il y a la question du Donbass, première question. La question de ce que les Russes appellent la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas un danger pour la Russie, notamment en ayant des capacités balistiques à longue portée. La dénazification de l'Ukraine, c'est-à-dire rendre aux Russes le statut qu'ils n'auraient jamais dû perdre de seconde langue nationale et rendre à l'Église orthodoxe ukrainienne ses droits et ses propriétés. Et enfin, la neutralisation de l'Ukraine. Et sur la neutralisation, d'ailleurs, les Américains aujourd'hui sont d'accord. Pour eux, ce n'est pas un problème. Il est hors de question que l'Ukraine reste de l'OTAN. D'ailleurs, si l'OTAN survit, parce que depuis l'affaire du Groenland, on n'en est plus trop sûr.
On a de quoi se poser des questions, en effet.
Donc, voilà, il n'y a pas de... quand les Européens viennent avec leurs gros sabots se mêler de cette négociation, bizarrement, à chaque fois, ça repousse, en fait, de plusieurs mois l'échéance de paix, oui. En disant aux Ukrainiens, ne cédez pas, de toute façon, vous aurez une aide européenne.
Et voire même des déploiements de soldats français ou britanniques, 6000 Français. Vous pensez que le tir de missiles Oreshnik début janvier, de missiles russes Oreshnik, leur a servi de leçon ou on va encore entendre parler de ce déploiement ?
De toute façon, c'était le but. Enfin, faut être clair, hein. Le tir de missiles Oreshnik était un avertissement donné aux Européens en leur disant, si vous déployez des troupes en Ukraine, le risque, c'est qu'elles soient pulvérisées. Donc, il n'y a pas de question là-dessus. Ensuite, les Européens disent, mais l'Ukraine est un État souverain, on fait ce qu'on veut, si on veut y mettre des troupes, on y mettra des troupes. S'il y a un accord de cessez-le-feu qui dit pas de troupes étrangères, on ne pourra pas imposer des troupes étrangères, sauf... À ce que les Américains ont dit, c'est que si l'accord est enfreint par une des deux, enfin par l'Ukraine, mmh. sur une de ces, eh bien la garantie de sécurité américaine
sauterait,
tombera avec, mmh. et le financement de reconstruction tombera avec aussi. Donc personne n'aura, en fait, les Européens, même s'ils font des communiqués claironnants, même si Emmanuel Macron veut se positionner comme nouveau chef du monde libre. Les Européens ne pourront pas mettre de troupes si l'accord l'interdit. C'est clair, net, précis. Personne ne l'acceptera. Mmh, mmh.
Alors, Romain Bessonnet, vous avez évoqué, d'une certaine manière, les limites, ou en tout cas les contraintes qui pesaient sur Moscou, Vladimir Poutine et la Russie. Figurez-vous que le conflit en Ukraine dure depuis 1432 jours. C'est 14 jours de plus que la Grande Guerre patriotique, qui a duré donc 1418 jours. Alors, humainement, c'est évidemment incomparable. Mais politiquement, ça rappelle quand même qu'il y a des limites, donc, comme vous l'évoquiez, russes au conflit. Ce qui nous emmène à évoquer cette économie russe, qui elle-même, si je vous suis bien, a quand même ses fragilités, bien sûr. Le conflit pèse sur l'économie russe. Elle est en stagnation relative, dit-on, avec une croissance faible, 1,1% prévue pour 2026, selon le FMI. Moscou doit gérer cela, doit gérer une inflation à 6%, et puis a évoqué aussi une augmentation de la TVA, 17% de la TVA, sauf sur les produits pour les enfants et les médicaments de base, etc. Il faut que le conflit finise pour la Russie.
Tout montre que... la Russie pourra encore financer le conflit sur 2-3 ans. J'ai vu beaucoup d'experts russes économistes disent que sans trop de casse, ils peuvent continuer à financer le conflit encore 2 à 3 ans. Ensuite, il est clair que les dépenses budgétaires importantes qu'implique le conflit ont des conséquences sur l'économie russe. Mais ça n'entraîne pas l'effondrement dont parle d'ailleurs M. Zelensky, qui a dit à sa population toute l'année 2025, attendez, l'économie russe s'est effondrée cette année, et puis elle ne s'est toujours pas effondrée, elle est même dans un bien meilleur état que l'économie ukrainienne. Ensuite, l'inflation à 6%, c'est un taux assez normal pour l'économie russe. Hein, c'est une économie assez, assez inflationniste depuis toujours, depuis 91 en tout cas. Pour ce qui est de la... En fait, le principal problème de l'économie russe actuellement, c'est un, bien sûr, les pénuries de main-d'œuvre qui sont en train d'être réglées par de l'immigration venant d'Asie. Hein, par exemple, on a un contingent qui a été accordé à l'Inde de 70 000 travailleurs, donc 70 000 travailleurs indiens. On négocie un quota avec le Vietnam aussi actuellement, par exemple. Là, je crois que le quota serait de à peu près 100 000 travailleurs supplémentaires. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que la Russie a bien sûr un problème à sortir ses exportations d'hydrocarbures. Mais là, pour le coup, l'administration de Trump vient de lui donner un sérieux coup de main avec la question du Venezuela, étant donné que les tonnes de pétrole que le Venezuela n'exporte plus en Chine, ben c'est les Russes qui vont les exporter. On commence d'ailleurs, on a eu les premières données sur la question. C'est d'ailleurs pour ça que les Indiens ont baissé. D'ailleurs, il y a une sorte de passe-passe, c'est-à-dire que les Indiens, en fait, ont baissé leurs importations de pétrole russe pour du pétrole vénézuélien sous contrôle américain, et les Chinois augmentent leurs importations de pétrole russe. Donc, et là, pour le coup, comme ce n'est pas du pétrole importé par voie maritime, la question de la fameuse flotte fantôme ne se pose pas. Il suffit de mettre des wagons sur des trains. Et puis, la Chine est assurée de ses approvisionnements. Donc, actuellement, effectivement, oui, l'économie russe, elle a ces problèmes-là. Elle a un deuxième problème, c'est la modernisation de son appareil industriel, où là, très clairement, les Chinois sont en train de prendre le lead sur les anciens partenaires européens. Il faut savoir que beaucoup d'usines en Russie ont été construites par les Européens dans les années 2000-2010, jusqu'à la guerre, et que maintenant, les Chinois sont en train de rafler des contrats de construction d'usines partout, notamment dans la partie asiatique, mais pas que, de la Russie, notamment dans l'Oural. On a des constructions d'usines de drones avec des joint ventures sino-russes. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui amène l'administration américaine à accélérer le tempo sur les négociations pour régler le problème ukrainien, car les États-Unis voudraient bien que les Russes n'atteignent pas un point de non-retour, je dirais, dans les investissements chinois sur leur territoire, et que les Américains, en fait, gardent une sorte d'équilibre dans ses relations économiques avec les États-Unis pour éviter un condominium russo-chinois qui, entre les matières premières russes et l'avance technologique que prennent les Chinois, mettrait la puissance américaine en difficulté pour les 30 prochaines années.
Pour les 30 prochaines années, il y a aussi un point sur l'or, évidemment, parce que avec l'explosion du cours de l'or, la Russie, selon Bloomberg en tout cas, a enregistré des profits. Hein. Pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, 216 milliards de dollars grâce à la hausse des prix de l'or, ce qui compenserait la perte potentielle des actifs russes détenus en Europe. Oui. Là, c'est le jackpot pour la Russie.
Là, c'est le jackpot, surtout qu'en fait, les 216 milliards, ça provient essentiellement d'une réévaluation, en fait, du stock d'or de la Banque centrale russe. Hein, donc, ça veut dire que grâce à son pourcentage en or qui est assez élevé, la Banque centrale russe vient d'annoncer, donc fin décembre dernier, avoir ses réserves de change les plus... Donc, ils ont le montant le plus élevé de réserves de change depuis la création de la Banque centrale russe en 1991. Donc, actuellement, ça profite très clairement à l'économie russe, cette révélation de l'or, sachant que la Russie est entre le premier et le deuxième, suivant les années, producteur d'or mondial avec le Brésil.
Eh bien, cela marche pour l'économie russe, ou en tout cas cela bénéficie à l'économie russe. Romain Bessonnet, merci encore d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle, je souligne que vous avez envisagé, évidemment avec prudence, une paix pour l'année, dans l'année 2026. Merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et bonne soirée.